j'ai pu témoigner que Dieu fait bien les choses, parce que dans l'hésitation de mes sentiments et l'appréhension un petit peu de parler devant vous, Dieu me prépare ces chants-là pour me mettre en confiance, en me rappelant que c'est lui qui fait tout, et que en se cachant auprès de lui, on a toute la puissance, toute la paix dont on a besoin pour faire ce qu'il nous demande de faire. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager, et en général, quand je prépare quelque chose, il y a trop, donc il faut en enlever. Et je vais essayer d'être le plus clair possible et de ne donner que quelque chose, et j'espère que ça vous sera utile. Ce que j'avais envie de vous partager, pour que vous soyez prévenus, c'est un encouragement pour avancer. Quand on a commencé notre vie chrétienne depuis un certain temps, quand on a donné sa vie à Jésus depuis un certain temps, parfois on peine un peu à avancer. J'espère que ce message sera un encouragement pour vous. Si vous avez commencé, si vous avez donné votre vie à Christ il y a quelques années, et peut-être ça va vous servir aussi si ça fait que quelques semaines. Et c'est à ça que j'ai à cœur ce matin. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu veux éclairer nos vies. Et donne-moi, s'il te plaît, d'être clair et ouvre nos cœurs, s'il te plaît, à ce que tu veux mettre dedans. Et merci parce que tu as déjà tout fait à l'avance. Tu nous demandes simplement de recevoir. Sois glorifié et bénis ta parole et que ton message nous touche ce matin encore. Au nom de Jésus, amen. Pour marcher dans la foi, je disais, on a besoin de savoir comment durer. Et il y a quelques temps, j'ai fait l'expérience que j'aimerais vous partager. Il y a un speech qui a été dit à l'église et il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord. Et j'étais très sûr de moi. Ma théorie était très ancrée en moi. C'était sur l'assurance du salut. Et j'avais cette conviction en moi-même. Que voilà, on était sûr d'être sauvé. Et du coup, j'avais reçu ça de mon enseignement, et j'étais sûr de moi. Mais quand il a fallu le défendre, quand je me suis dit comment je vais l'expliquer à l'autre, là j'étais moins sûr. Parce que c'était quelque chose que j'avais reçu, qu'on m'avait enseigné, mais je n'étais pas capable de justifier avec la Bible. Alors j'ai cherché. J'ai cherché dans la Bible, et en particulier dans les évangiles, qu'est-ce que Jésus dit sur ce sujet. Et je suis sûr que j'aurai raison, donc je vais trouver un passage qui va me donner raison. Donc j'ai cherché, j'ai relu les évangiles entièrement pour savoir qu'est-ce que Jésus dit sur le salut. Et je cherchais quelle est la formule magique, quel est le minimum à faire pour être sauvé, être sûr d'être sauvé. Je cherchais, voilà, si je fais ça, c'est bon, je suis sûr. Et puis j'ai perdu ma belle théorie en lisant. J'ai trouvé autre chose que ce que je m'attendais. Et j'aimerais vous le partager avec vous. C'est dans Matthieu 16, à partir du verset 13. On va le lire ensemble. Matthieu 16, verset 13 à 27. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. La première question que nous trouvons dans ce passage, au verset 13, « Qui suis-je, d'après les hommes ?» est déterminante, absolument déterminante. Mon père dit que c'est la question qui oblige à se positionner. Si vous voulez connaître quelle est la foi de quelqu'un, ou où est-ce qu'il en est au niveau spirituel, vous lui posez la question « Qui est Jésus pour toi ?» Et suivant la réponse que vous obtenez, vous pouvez savoir, avec pas mal de précision, qu'est-ce qu'il pense, où est-ce qu'il en est dans sa foi. S'il répond avec assurance « Jésus, mon sauveur », vous avez une idée. S'il répond en hésitant « Je crois que c'est le Fils de Dieu », vous avez une autre idée. S'il répond « Je ne connais pas » ou « J'ai cru entendre ça dans mon enfance, mais bon, ça ne m'intéresse plus », vous avez une autre idée. Ce que vous pensez de Jésus vous détermine au niveau spirituel. Ça, vous comprenez la foi de l'autre à travers ce qu'il dit de Jésus. La réponse de Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », illustre ce que Pierre pense. Pierre, il est persuadé que son sauveur est en face de lui. Et il est sincère, c'est pas juste des mots, c'est pas juste je connais en théorie, c'est une connaissance théorique. Pierre a quitté son emploi pour suivre ce sauveur. Il met sa confiance dans son sauveur et ça transforme sa vie. Donc ce qu'il dit maintenant, c'est vraiment ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, ça détermine ce qu'il fait. Il va jusqu'au bout, il suit le programme de Jésus au jour le jour, sans vraiment avoir d'endroit fixe. Il ne sait pas vraiment ce qui va arriver, il suit cette personne parce qu'il pense que c'est son sauveur. On appelle ça la foi. Quand on pense quelque chose et que ça dirige notre vie, Pierre a cette foi-là, et ça modifie sa vie. Et Jésus, au verset suivant, ne le félicite pas pour sa clairvoyance. Il ne dit pas « Ah, tu es très perspicace, Pierre, tu as trouvé ça. » Il dit « Mon Père céleste te l'a révélé. » Qu'est-ce que c'est révélé ? Révélé, c'est-à-dire l'idée ne vient pas de vous. L'idée vous a été donnée. Vous n'aviez pas cette idée au départ. Vous l'avez reçue. Pourtant, cette idée, elle fait partie de Pierre. Elle dirige la vie de Pierre. Comme si c'était son idée, il a adhéré, ça le fait vivre, c'est son espoir. Mais cette idée lui a été donnée. Elle n'est pas de lui. Et puis Jésus continue avec un programme passionnant. Prévaloir contre l'enfer, quelque chose qui est incroyable. Moi, ça me fait vibrer quand j'ai devant moi un programme qui est dangereux et que je suis sûr de réussir. C'est ce que j'aime par-dessus tout. C'est me dire je prends des risques et je vais réussir. C'est sûr. Et dans ce passage-là, Dieu, il scelle la victoire, il dit, c'est sûr, ça va marcher. Et puis Jésus continue son enseignement sur le plan de Dieu, petit à petit. Et on découvre que la mort et la souffrance, et aussi le fait de perdre face aux responsables religieux, fait partie du plan. Il le révèle, ça fait partie de ce qu'il a à dire aux disciples. Et là, ça coince. Ça coince, c'est pas ce que Pierre attendait. La mission, oui. Prévaloir contre l'enfer, oui, ça me plaît. Abandonner mon métier et vivre un peu au jour le jour pour le sauveur. Dans l'idée de réussir quelque chose, oui, ça me plaît, mais là, souffrir, vivre une défaite par rapport aux responsables religieux, non, ça c'est plus raisonnable. L'intelligence de Simon l'alerte en disant « Attention, si on va dans ce chemin-là, on va perdre quelque chose de précieux. Peut-être même on va perdre Jésus si on s'avance là-dedans. » Donc, logiquement, Simon s'oppose à cette idée-là. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors, c'est le face-à-face. Simon se retrouve contre Jésus. Et dans Marc 8, verset 33, c'est même précisé que Jésus le reprend devant tous les disciples. Et ça a dû faire mal. Ça a dû faire mal. On se retrouve contre celui qu'on voulait aider en toute bonne foi. Intelligemment, on dit ça, c'est dangereux, ne le fais pas. Et on se retrouve contre. Alors, Jésus doit continuer l'apprentissage. Oui, la mort de Jésus fait partie du plan. La défaite fait partie du plan. Et même plus loin, votre mort aussi, à vous-même, fait partie du plan. Vous avez besoin d'apprendre ce que vous avez déjà commencé à apprendre. Vous avez abandonné votre métier pour les disciples. Ils le suivent au jour le jour. C'est déjà pas glorieux comme vie terrestre, mais ils ont commencé cela. Ils doivent encore l'apprendre plus loin. Et pour Pierre, peut-être, c'est abandonner son envie de triompher par la force, son envie de gloire terrestre, et de se fier aux promesses de Jésus avec cette incertitude. Qu'est-ce que sera demain? Alors, recevons l'enseignement pratique et vivant de Jésus. Quand j'étais coincé dans ma théorie, je cherchais le minimum pour être sauvé. Et si on veut chercher le minimum, on peut trouver des versets comme Acte 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il n'y a pas besoin de plus. Peut-être ça suffit pour être sauvé. Moi, je pensais que oui. Donc théoriquement, je peux faire ce que je veux. Si je fais ça, si je crois au Seigneur Jésus, je suis sauvé. C'est bon. Même si je fais ce qui m'intéresse, si je ne tiens pas compte de Dieu, je serai sauvé, je serai au moins du bon côté là-haut peut-être, ou au moins pas du mauvais côté. Alors, ma connaissance théorique m'autorisait à m'égarer très loin de Dieu. Et en tant que chrétien, je me disais non, je ne fais pas n'importe quoi, mais je n'ai pas besoin d'avancer plus loin, je n'ai pas besoin de prendre des risques. Ça va, je suis sauvé, on s'arrête là. Ça me va bien comme ça. Le reste, je n'ai pas trop envie de l'entendre. Et ce n'est pas ce que Jésus veut. C'est pas ce que Jésus veut. Il y a des objections à rester à ce salut-là. Il y a des objections. Par exemple, pour être sauvé de l'enfer, on dit, voilà, je crois au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Le minimum convient, peut-être. Mais pour cela, Jésus n'a pas fait le minimum. Jésus a fait le maximum. Jésus, il a tout donné pour que nous puissions avoir peut-être ce minimum-là. Je suis sauvé. Alors, le minimum pour nous, peut-être, c'est de le remercier juste chaque jour. Il y a une autre objection, c'est est-ce que Dieu est d'accord avec le minimum de sainteté? Je ne crois pas. Dieu est saint et Il ne supporte pas le péché, et je ne pense pas qu'il le supporte dans ses enfants non plus. Alors si nous faisons du mal, si nous péchons, et si nous ne voulons pas avancer sur ce chemin de sanctification, puisque c'est ça, c'est pas contre Dieu que nous faisons quelque chose. En fait, c'est contre nous. Le péché nous abîme nous-mêmes. Et ce n'est pas Dieu qui perdra à la fin. Dieu est glorieux. Nos péchés ne lui portent pas ombrage. À la fin, il sera glorieux. Quand il jugera tout, nous serons trouvés honteux. Lui sera trouvé glorieux. Que nous fassions du bien, que nous fassions du mal. Et le mal sera contre nous. Et une troisième objection, c'est que Dieu ne nous a pas donné cette marche à suivre pour notre malheur, pour notre péril, pour que nous craquions. Il nous a créés, donc il sait ce dont on est fait, il sait ce dont on a besoin. Et c'est pour notre bonheur qu'il nous donne la marche à suivre. Donc on peut lui faire confiance, c'est pour être heureux. Alors abandonnons l'idée théorique du minimum. Et cherchons la plénitude de ce que Dieu propose. Le verset 13, le début du passage, me fait penser moi-même à ma propre conversion. Quand un jour, moi-même, j'ai dû me poser la question « Mais qui est Jésus pour moi ?» Et à ce moment-là, peut-être vous avez vécu une expérience qui est similaire, j'avais peur du jugement. Je me sentais coupable et je voulais absolument échapper à la conséquence de mes péchés. Pourtant, quand je regarde maintenant, je n'avais pas fait quelque chose de très grave. C'était vraiment une petite bêtise. Mais ça a été le déclic et j'avais peur. C'était intense. Et la voie que j'ai vue dans Jésus, c'est le salut. Et j'ai sauté dedans. J'ai tout donné en me disant je veux ce salut-là. Je veux ce salut-là. Et rappelez-vous vous-même. Le moment où vous êtes engagé avec Christ, vous n'avez pas donné juste le minimum, vous avez tout donné, parce que vous vous accrochiez à ce salut-là. Vous vous êtes accroché à ce salut-là parce que Dieu vous a révélé que vous étiez dans le péché, et vous a révélé la sortie, il vous a révélé le plan de salut. C'est Dieu qui vous a donné ça. Quand on continue au verset 18, il vous a donné une mission passionnante. Il vous a donné une utilité, il vous a donné un service, un don. Et vous pouvez le vivre. Vous êtes appelé à vivre cela. Au maximum, à fond. Au verset 21, il vous enseigne chaque jour sur la sainteté, sur son plan de salut, son idée à recevoir. Au verset 22, et quand ce que tu reçois de Jésus choque ton intelligence, tu dis là, c'est dangereux. Là, ce n'est pas raisonnable. Tu as raison. D'après ton intelligence, ce n'est pas raisonnable. C'est trop dur, peut-être parfois. Mais s'il te plaît, ne t'arrête pas. Reste collé à la personne qui t'a sauvé. Et comme il t'a révélé ton salut, il te révélera aussi le chemin à suivre. Ce n'est pas ton intelligence qui va faire le travail. Ce n'est pas ton plan raisonnable qui va faire le travail. C'est le plan de Jésus. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas loin de lui, avec notre réflexion, qu'on va comprendre comment vivre notre vie chrétienne. Ça, c'est très dur. C'est trop dur. Il y a des choses qui ne passent pas dans le raisonnement. C'est proche de lui avec une révélation. Et ça, c'est doux. Les révélations de Jésus sont douces. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est pas une vie austère, pleine de règles, d'interdictions. C'est la gloire. Le but, c'est la gloire. C'est une espérance magnifique. Alors nous avons besoin de révélation. J'ai un exemple qui me frappe. Je ne vais pas citer le prénom, mais on connaît quelqu'un avec l'andou qui s'investit très très fort dans les jeux vidéo. Et j'en parle librement parce que moi-même j'ai ce même travers. Donc il est à fond dedans. Et il peut y passer toute la nuit. Et c'est vraiment quelque chose de, je dirais pas épanouissant, mais c'est sa passion. C'est sa passion. Il est très fort à ça. C'est valorisant pour lui. il gagne beaucoup de choses. Mais couper le PC et s'investir dans la vie, c'est difficile. C'est pénible pour lui. C'est dur. Et nous, de l'extérieur, quand on le regarde, on le voit presque mourir, en fait. Ses yeux sont un peu creusés par les heures de PC. Il a un petit peu grossi. Il a du mal avec ses relations. Quand il parle avec les autres, c'est un peu difficile. C'est un gars génial, pourtant. Hein. Il est assez relationnel. Mais il est en conflit du coup, avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin ? Il n'a pas besoin... En fait, ce n'est pas raisonnable pour lui d'entrer dans la... de couper son PC et d'entrer dans la vraie vie, parce que c'est difficile. Il ne va pas y arriver. C'est dur pour lui. Il a besoin d'une révélation. Il a besoin de comprendre qu'il perd son temps, que ce n'est pas épanouissant pour lui, que la vraie vie l'attend en dehors. Une vie belle et riche. Combien est-ce que nous investissons dans des choses qui s'éteignent bientôt, comme les jeux informatiques? Combien nous investissons dans les choses qui s'éteignent bientôt? Le but, c'est la gloire, c'est ce qui dure, c'est ce qui a de la valeur. Ce que nous avons commencé avec une révélation, quand vous êtes attaché à Christ, continuez avec une révélation. Continuez en étant proche de lui. Comment est-ce qu'on a une révélation? Lisez la Bible chaque jour. Lire la Bible chaque jour. Priez, adressez-vous à Dieu. Partagez la foi avec vos frères et sœurs. Et faites, agissez, aidez, mettez en pratique votre vie. On va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ces moments qu'on a. Merci pour les textes que tu nous donnes. Je voudrais te demander encore d'éclairer nos cœurs, de corriger ce qui n'est pas bon et de rendre les choses droites comme tu les veux. Et merci parce que tu n'es pas là pour nous écraser, mais tu es là pour nous guider, pour nous donner la force et pour nous révéler qu'est-ce qui est vrai. Seigneur, garde-nous encore et permets-nous d'être vivants avec toi. Au nom de Jésus. Amen.